Elle était une fois une femme dans un monde d'hommes. Un monde qui avait tué des milliers de femmes, brûlé des milliers d'entre elles pour garder le contrôle et le pouvoir. Alors cette femme voulait hurler sa colère et son dégoût face à cette violence injuste et à cette domination abusive. Elle appela donc à elle ses sœurs et ses adelphes pour faire entendre leur voix et que l'humanité n'oublie jamais les horreurs perpétrées. Bienvenue sur Radio G, dans Elle était une fois, votre émission féministe qui met en lumière les femmes d'hier et d'aujourd'hui. Vous avez choisi Radio G sur le 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Que vous soyez dans le bus ou dans le tram ou confortablement installé pour profiter du soleil, préparez-vous pour une heure de lutte, de girls, girls et de rire. Moi c'est Astrid et pour m'accompagner durant cette prochaine heure, je peux compter sur la fine équipe, mes acolytes et mes copines. Si elle était un proverbe, elle serait sans doute « Quand les brebis enragent, elles sont pires que les loups ». C'est notre meuf badass, une main de fer dans un gant de velours. Bonjour Emeline, comment ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va super. Si elle était une ref française, elle serait certainement l'iconique « Il y a des colères saines ». Méfiez-vous de sa langue acérée. Bonjour Léonie, comment ça va ?
Mais ça va super.
Je suis d'humeur portrait chinois aujourd'hui.
Je vois ça.
Si elle était un parfum, elle serait l'agrume acidulé et la douceur de la guimauve. Elle rejoint officiellement l'équipe non plus comme simple photographe, mais comme chroniqueuse à part entière. Bonjour Soraya !
Coucou !
Comment ça va ?
Ça va super bien. Je suis trop contente.
Contente de rejoindre l'équipe.
Clairement, je suis hyper heureuse.
Et on est trop trop contente de t'accueillir officiellement. Et je suis très très contente de vous retrouver pour cette nouvelle heure de papotage. Et justement, au sommaire de cette émission, on vous parle de Yaoi Kusama. On avait parlé de ses œuvres au tout début de l'année. Et il est temps maintenant de découvrir son histoire. On vous présente également celle qui devient le soleil de Shaylee Parker Chan. Pourquoi les expériences romantiques sont-elles un idéal à atteindre absolument ? Pourquoi ressentons-nous ce besoin de plaire, d'être et d'être aimé, d'aimer et d'être aimé ? Est-ce que c'est un sentiment qui est naturel ou est-ce que c'est le fruit de notre socialisation ? On en discute tout à l'heure. Dans chaque émission, nous recevons une angevine ou un collectif engagé pour le féminisme et les luttes intersectionnelles ou juste une femme trop stylée qui mérite d'être mise en avant. Et aujourd'hui, nous recevons un projet qui me tient à cœur et que je suis avec grand enthousiasme. Nous recevons le procès du sexisme représenté ce soir par Marie Plotzi. Bonjour Marie.
Salut.
Comment ça va ?
Super, ravie d'être là.
Et un grand, grand plaisir de te recevoir à nouveau parce que tu étais déjà venue sur notre plateau en début d'année. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un sacré sujet, donc je suis vraiment trop, trop contente. Nous découvrirons le procès du sexisme dans un quart d'heure environ, alors restez avec nous. Vous êtes sur Radio G, 101.5 FM pendant une heure, où on vous accompagne pour lutter contre le patriarcat. Une heure dédiée aux femmes pour enfin les mettre dans la lumière qu'elles méritent. Vous êtes dans Elle était une fois. All day, every day, therapist, mother, maintenance, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, lift to attend him, so that he never lifts a finger. Je me souviens, il y a quelques semaines, alors que je vous partageais une info franchement horrible sur les violences faites aux femmes, Léonie avait dit « N'arrêtons pas d'être offusqués par ce genre d'infos et continuons d'en être révoltés ». Eh bien, c'est avec cette idée en tête que j'ai trouvé celle que je vais vous partager aujourd'hui. Mais alors franchement, trigger warning pour les plus sensibles d'entre nous, on va parler de viol pendant les 4 prochaines minutes. Et plus précisément, de l'Académie du viol. Récemment, la chaîne états-unienne CNN a révélé une enquête qui fait véritablement froid dans le dos, l'existence d'un réseau ayant pour objectif de violer des femmes, de partager des vidéos en ligne et de ne pas se faire prendre par la justice. Comment est-ce possible ? Sur quel site obscur du dark web cela se produit-il ? Aucun. On parle ici de canaux Telegram et de sites pornographiques accessibles comme motherless.com. Plus de 20 000 vidéos de femmes agressées sexuellement et violées dans leur sommeil, des catégories abjectes et révélatrices comme évanouie ou vérification des yeux, des techniques ignobles pour vérifier que la victime est bel et bien droguée. On pourrait croire que ce n'est qu'une minorité d'hommes, qu'il n'y a pas autant d'agresseurs, que ce sont des malades ou des fous qui font ce genre de choses. Eh bien non. Non, on parle ici de 62 millions de vues par mois, 62 millions. Parmi eux, des pères de famille, des époux, des frères, des oncles, des amis. Ce ne sont certes pas tous les hommes, mais ce sont toujours les hommes. Et c'est avec des chiffres pareils que notre peur, notre colère et notre dégoût sont plus que légitimes. Autour du plateau, est-ce que vous aviez entendu parler de ce réseau, de cette Académie des viols, et qu'est-ce que vous en pensez ? Emeline.
Alors oui, j'ai entendu
passer la news et franchement, je trouve que c'est absolument dégoûtant. Enfin, j'y pense, il n'y a pas les mots en fait pour décrire à quel point c'est un comportement ignoble.
Ouais. on n'a pas les mots. Soraya, est-ce que tu avais vu passer l'info ?
Je l'ai vu passer, mais je trouve qu'on en a quand même pas assez fait. Je trouve qu'on en a pas assez parlé, que c'est pas passé dans les news à la télé ou quoi. Genre, c'est juste, je l'ai vu sur les réseaux et voilà. Et les gens passent à la nouvelle info qui va être croustillante et c'est horrible. Et bah, comme dit Emeline, on n'a pas les mots, quoi.
On n'a pas les mots, effectivement. Marie, je te voyais réagir aussi. T'avais vu passer l'information?
Malheureusement, j'ai vu passer l'info. Pour être honnête, au début, un peu comme Soraya, j'ai vu ça sur les réseaux et je suis tout de suite allée checker parce qu'en fait, c'était tellement improbable et en dehors de ma conception,
ouais,
que je me suis dit c'est pas possible, ils ont fait de un ou deux cas une généralité, enfin vraiment dans ma tête c'est pas possible que ce soit autant, justement comme tu disais, que ce soit pas sur le dark web, que ce soit pas sur des trucs un peu sombres ou niche ou sur lesquels il faut que les malades aillent creuser. Non, les malades peuvent être sur n'importe quel site, enfin c'est pas sans rappeler, je trouve, ce qui s'est passé, enfin l'affaire Gisèle Pellicot, ouais. c'est voilà, et je trouve que c'est à gerber en fait comme genre de news et c'est ouais, c'est assez moi ça m'a dégoûté quand j'ai vu les vidéos, à tel point que j'ai cru que c'était du fake, genre vraiment j'y croyais pas au démarrage.
Ouais, clairement. On peut se demander légitimement comment ne pas sombrer dans le désespoir lorsqu'on voit sans cesse ce genre d'informations. Selon toi, Léonie, comment on pourrait faire pour ne pas perdre notre santé mentale avec tout ce qui se passe ?
Ah, c'est difficile. je sais pas si tu parles à la bonne personne par rapport à ça. Je sais pas si ma santé mentale elle est hyper top parce que enfin forcément quand on s'engage et quand on milite, on fait face à des nouvelles à des infos qui sont hyper dures à encaisser. Mais je trouve que c'est important de bien s'entourer, de s'entourer de personnes qui vont aussi être révoltées. Je trouve qu'il y a un truc qui est très unificateur. Est-ce que c'est un mot, unificateur ?
Oui.
Oui. Dans le collectif. et je trouve que là, par exemple, d'en parler ensemble, d'être révoltés ensemble, il y a quelque chose de... Bah, si on est plusieurs à être révoltés, c'est qu'on a raison. C'est qu'il y a un truc... Je sais pas, il y a quelque chose de solidaire là-dedans et je trouve que c'est important.
Je suis d'accord. Marie, je te vois hocher la tête aussi. Est-ce que tu veux réagir ou compléter ?
Bah, je pense que globalement, les news... je te rejoins complètement. Les news actuelle, mais depuis quelques temps déjà, c'est ce qui mine le plus le moral, que ce soit au niveau international ou même au niveau national, et je trouve que c'est hyper difficile parfois de s'en détacher. Et en même temps, je sais plus quel youtubeur, je crois, enfin, a créé un podcast, je crois que c'est Noolito, qui disait que justement lui, sa résolution de 2026, c'était de se couper des news, parce qu'en fait c'était quelque chose qui l'atteignait trop en termes de bonne humeur, de morale au quotidien. Et franchement, quand on voit ce genre de truc, je comprends, parce que c'est flippant, quoi.
C'est clair qu'il faut réussir à se protéger et à faire attention à soi. Léonie, est-ce que tu souhaites réagir ? Je te vois saisir ton téléphone au taquet.
C'est que je recherche, mais par rapport aux victoires et aux choses comme ça, je pense que ça peut être important de garder des bonnes, enfin des infos qui font plaisir.
Ouais.
Et je sais qu'il y a un podcast de Victoire Toyon. Je n'ai plus le nom du podcast en tête, mais c'est quelque chose sur les victoires. Et globalement, c'est Je vais essayer de le retrouver pendant l'émission, je vous redis.
Ça marche.
Mais justement, c'est un podcast qui met en avant les fois où les luttes ont réussi.
Mmh.
Et du coup, ça fait du bien.
Grave.
Ça fait du bien à écouter, ça fait du bien à entendre, parce que on voit plein de fois où on échoue, on a l'impression qu'on va jamais réussir. Et en fait, si, on réussit. Il y a plein de trucs qu'on arrive, à faire et ça fait du bien à entendre.
Trop bien. Et ben, je te laisse chercher tranquillement et puis tu reviens vers nous dès que tu as.
J'ai trouvé. Ça s'appelle Et parfois, on gagne.
Et parfois, on gagne.
C'est un podcast qui est fait avec Arte. Okay. Arte Radio et du coup animé par Victoire Tuyon.
Super. Et bah on prend note de la reco et on passe tout de suite à la prochaine séquence parce que on va pas se plomber le moral d'autant plus, on va essayer de se remotiver un petit peu et de se donner du positif. Et justement, pour ça, pour ne pas se laisser plomber par la cruauté humaine, je vous propose de passer à un sujet bien plus joyeux et positif. Je voudrais vous donner des nouvelles de nos copines, de nos girls qui sont venues dans l'émission pour nous partager leur parcours. Que sont-elles devenues ? Qu'est-ce qu'elles ont fait depuis ? Eh bien, on va commencer par Saadia Hamdine, notre talentueuse photographe, la toute première invitée de « Elle était une fois ». Eh bien, Saadia organise en ce moment même, en collaboration avec trois autres femmes incroyables, un workshop au Maroc afin d'aider des femmes qui souhaitent apprendre à gérer leur image, à affiner leur esthétique, à clarifier leur histoire et créer du contenu qui les reflète vraiment. Franchement, si j'avais les moyens, je l'aurais clairement fait. Ça a l'air tellement bien. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez retrouver le lien sur le compte Insta de Sahamage, S-A-H-A-M-A-G-E. Voilà. Est-ce que vous, ça vous tenterait d'aller au Maroc avec un groupe de meufs créatives et déterminées pour vous faire shooter et pomponner? Soraya, je vois que tu hoches la tête.
Mais de fou, ça a l'air incroyable. C'est une hyper bonne initiative.
Grave, vraiment. Emeline, ça te dirait?
Mais totalement. Franchement, j'adorerais.
Et bah, on prend note, un jour quand on sera riche, on ira. Vous vous souvenez de Maison Martine, la première charcuterie végétale de France? Eh bien, elle est passée au 12h45 de M6. Ça bouge très très fort pour Aline, qui est désormais présente le mercredi sur le marché Lafayette. Sa visibilité progresse à tel point qu'elle a atteint les 10 000 abonnés sur Instagram. Wow. C'est trop trop bien, c'est une magnifique avancée qu'on est très heureuse de suivre. D'ailleurs, est-ce que vous avez tenté l'expérience Maison Martine depuis qu'elle est passée sur notre antenne, Léonie?
Pas encore, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. C'est vraiment.
Et toi, Soraya? Puisque je sais que tu es végétarienne comme moi.
Oui, mais pas encore. Il faut que je goûte. Il faut absolument que je goûte, mais j'ai pas eu le temps.
Un jour, on s'organisera.
Mais clairement, une petite sortie.
Grave. On fera ça. On se prévoit une petite liste et on ira voir Maison Martine. Clairement. On vous recommande aussi. Dernière actu, celle de notre artiste de comédie musicale préférée, Célia. Pour celles qui ont vu passer l'info, on a pu la voir sur scène les 30 avril et 1er mai pour son spectacle Calathea de la compagnie Grain de Folie. Un spectacle magnifique qui nous plongeait dans le passé d'Ophélia, interprété par Vinciane Dehay. Pour celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir les talents de Célia, vous pourrez la retrouver dans Danser n'est pas un crime, une réécriture de Footloose du 12 mai au 2 juillet. Au Folie en Juin, j'ai pas précisé, mais c'est évidemment au Folie en Juin. S'il y a bien un endroit où est Célia, c'est là-bas. Et pour celles qui sont curieuses de découvrir ses talents de scénariste et de metteuse en scène, Célia donne aussi des cours de comédie musicale et ses élèves se produisent du 2 au 9 mai dans la Nuit des chansons enchantées. Voilà, donc tout ça c'est au Folie Angevine, vous pouvez retrouver toutes les infos sur leur site internet et on ne peut que vous encourager à y aller. Est-ce qu'autour de la table vous avez déjà assisté à des spectacles au Folie Angevine? Est-ce que vous connaissez cet endroit, Emeline?
Alors non, je suis jamais allée là-bas, mais j'aimerais beaucoup en vrai, juste voir et tout.
Ok, bah pareil, on s'organisera ça, il n'y a pas de souci, je prends note. Et toi, Léonie?
Oui, j'y avais été l'année dernière pour voir Célia, justement, voir Célia. Quand elle jouait Hercule.
Ah oui,
on y était ensemble.
Bah oui, on y était ensemble.
Et oui, elle jouait Hercule et elle jouait trop bien, les Folies Angevines, c'est trop chouette. Vraiment, c'était un super moment.
C'était un super moment. Marie, est-ce que tu es familière de l'endroit aussi?
Alors familière non, mais j'y suis allée pour la première fois il y a genre un mois et demi, je pense, justement pour soutenir l'un des partenaires du procès du sexisme qui organisait pour la première fois un late show.
Ok.
Donc avec du théâtre d'impro et j'ai emmené mon mari qui était un peu dubitatif. On est sorti mort de rire, les larmes aux yeux, le mascara au niveau des joues. C'était génial. Super ambiance aux Folies Angevines et puis une super soirée. Je pense que ce sera répété aussi à partir de la rentrée. Ils veulent mettre ça en place tous les mois. Franchement, je recommande à mort. Si moi je connaissais pas du tout le théâtre d'impro et pas du tout les Folies Angevines non plus. J'ai découvert deux trucs trop cool sur cette soirée donc. Vraiment, je recommande à fond.
Trop bien. On prend note aussi. On y enverra Soraya qui ressortira dans un sacré état. Est-ce que Soraya, toi, t'as déjà été au Folie Angevine?
Jamais. Encore. Mais pourtant, je passe devant. Mais non, je suis jamais rentrée à l'intérieur.
Et bah, il ne tarde que d'y aller. Il y a encore pas mal de dates à nous proposer. Et on pourra aller soutenir nos copines. Parce que les Folies Angevines, c'est une association de passionnés. C'est un super moyen de soutenir des artistes locaux et de découvrir de nouveaux talents. Et en plus de ça, bah, généralement, les sorties sont au chapeau. Donc, c'est hyper accessible. Nous partons à présent à la découverte d'une femme exceptionnelle. C'est le portrait de la semaine que tu nous présentes, Emeline.
Elle était une fois une artiste dont les œuvres sont tant originales que colorées, Yayoi Kusama, artiste japonaise que l'art finira toujours par rattraper. Yayoi Kusama est dès son enfance fascinée par un certain motif, les pois. Cette fascination, ou plutôt obsession, démarre à l'âge de 10 ans lors d'une hallucination. Elle a toujours été proche de l'art, peut-être un échappatoire à son quotidien rigide et violent. Quand elle était petite, elle se faisait battre par sa mère. À l'âge de 13 ans, elle travaille dans une usine de construction de parachutes pour l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Les journées sont éprouvantes et son désir de créer reste très fort. Yayoi veut fuir son quotidien. À 19 ans, elle prend son envol vers les États-Unis à New York. C'est pour elle une façon de gagner en liberté. Et avant de partir, elle déchire ses œuvres pour prouver à sa mère, qui voulait en faire une femme au foyer, que ses prochaines œuvres peuvent devenir encore plus grandioses que celle-ci. Là-bas, elle continuera en tant qu'artiste à exposer ses œuvres par-ci par-là. Elle est peu remarquée et mise de côté, même si son art, de par son originalité pour l'époque, attire peu à peu le public. D'ailleurs, plusieurs artistes ont sorti des œuvres qui ressemblent beaucoup à celles de Yayoi Kusama. Je pense à Claes Oldenburg qui a exposé une œuvre proche de celle de la série Aggregation, composée de formes molles faites de tissus. Ou la série d'une photo d'une vache de Andy Warhol qui reprend le style de Yayoi, l'accumulation étant une caractéristique majeure de son art. On ne parle pas forcément de plagiat ici, mais imaginez quand même que quand elle sort une œuvre, personne n'en parle et il suffit qu'un artiste masculin fasse la même chose pour recevoir les acclamations du public. Certes, elle n'était pas aussi connue, mais je pense justement que c'est une conséquence d'un schéma sexiste. À cause de sa santé mentale se détériore et elle vend très peu d'œuvres, même si elle peint beaucoup à longueur de journée. Elle essaye de vendre dans la rue, fait des happenings, pose nue, organise un mariage homosexuel, ce qui est une première, et au Japon, elle fait scandale. Ces happenings ne plaisent pas du tout, on dit qu'elle fait honte à Matsumoto, sa ville natale, et reçoit des menaces et des insultes. On lui fait comprendre, quand elle rentre au pays, qu'elle n'est pas la bienvenue. Et au retour aux États-Unis, son art se diversifie. Elle fait des poèmes, de la mode, crée sa marque, et après le décès de son père, elle n'arrive plus à peindre. Son art de l'anime et tombe dans une profonde dépression. Elle sait qu'elle a besoin d'aide, alors elle rentre. Elle retourne au Japon dans un hôpital psychiatrique. Progressivement, elle reprend la peinture, les poids réapparaissent, la couleur aussi. Par-ci par-là, ses œuvres sont exposées, une exposition est organisée en son nom, un musée s'ouvre non loin d'où elle réside, porte son nom, Yayoi Kusama. Et lorsque pour certains, on les honore avec une sculpture de cire, Yayoi Kusama a un androïde à son image. Après tant d'années de travail, la princesse des poids a enfin la lumière qu'elle mérite.
Merci beaucoup Emeline pour ce nouveau portrait. C'était trop chouette comme d'habitude. Et en plus de ça, c'était très cool, je trouve, d'avoir un peu plus d'informations sur une artiste que Anna nous avait un petit peu parlé au début d'année. Donc là, on a pu en apprendre plus sur son histoire et ça, c'est vraiment trop chouette. Donc merci pour ça. Nous allons à présent marquer une pause musicale qui nous est présentée par toi, Soraya. Quelle musique souhaites-tu nous proposer aujourd'hui ?
Alors, pour ma première pause musicale dans l'émission, j'ai repensé à notre débat de la semaine dernière sur l'orientation sexuelle, l'identité et le coming out. Et donc, entre-temps, je suis tombée sur une interview de Jennifer Ayash, la chanteuse du groupe Superbus, qui parlait de ses fans et l'impact que la chanson Lola a eu sur beaucoup de ses fans, de beaucoup de femmes, pardon. Venant lui dire après ses concerts que c'était un peu leur révélation lesbienne. C'est donc pour ça que je voulais vous faire écouter, c'est Lola de Superbus. On se retrouve dans deux semaines sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr.
Bonne écoute. Lola, allô Lola, ne raccroche pas, ne mets pas de hola Lola, hola. Boom, boom. êtes toujours avec nous sur le 101.5 FM dans Elle était une fois, votre émission féministe qui n'a pas peur de dire la vérité. Toujours avec mes copines, Léonie, Emeline et Soraya. Les filles, ça va toujours ?
Oui !
Et toujours avec Marie, notre invitée du jour qui représente le procès du sexisme. Marie, ça va toujours ?
Bien sûr !
Bien sûr ! C'est un projet lycéen qui vise à dénoncer le sexisme. Ce sont nos invités de la semaine. Nous sommes avec Marie Plotzi qui représente aujourd'hui le procès du sexisme. Merci déjà Marie d'avoir accepté l'invitation. Tu es donc, on va commencer une petite contextualisation. Donc, tu es donc chargée de mission éducation et d'orientation choisie chez FAS Maine-et-Loire. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi ça consiste exactement ?
C'est un nom très long dans lequel on peut mettre tout un tas de choses.
Oui.
En fait, le plus important et ce qui prend le plus de temps dans mon métier, c'est vraiment de faire de la sensibilisation auprès des jeunes, surtout en collège et en lycée. Sensibilisation au sens large sur la lutte contre les discriminations. Alors là, dans le cadre du projet du procès du sexisme, pardon, on est vraiment sur le sexisme comme le nom l'indique. Mais globalement, quand j'interviens en classe auprès des jeunes, on parle de tous les sujets liés aux discriminations. On parle de handicap, on parle de racisme, on parle de religion, on parle de poids, voilà, on parle d'énormément de sujets. Et l'idée, c'est de pouvoir offrir aux jeunes des espaces et des temps de parole sur des temps ludiques, en compagnie de professionnels d'entreprise aussi, pour pouvoir avoir cette vision de l'impact que tout ça, ça peut avoir sur l'orientation et sur, du coup, le monde professionnel. Mm-hmm. Donc, on a des professionnels d'entreprise qui interviennent sur toutes les actions du Club FAS pour justement partager leur quotidien, leur expérience, leur parcours.
C'est trop bien, en fait, qu'il y ait ça. C'est tellement une bonne initiative et je trouve que ça donne espoir de savoir qu'il y a ce genre de structure et d'initiative qui existe. Tu viens de le dire, FAS Maine-et-Loire est porteur de projets, souvent en lien avec différentes structures, notamment des établissements scolaires. Et c'est le cas du procès du sexisme qui a été créé avec le lycée Emmanuel Mounier. Comment s'est décidée cette collaboration entre vos deux structures ?
En fait, ça s'est fait de manière un peu, c'était un peu un coup de hasard.
Okay.
J'avais été contactée par un professeur du lycée Emmanuel Mounier pour mettre en place une sensibilisation sur un autre sujet, enfin toujours en lien avec la lutte contre les discriminations, mais il voulait cibler un groupe particulier, il me semble de mémoire, mais c'était il y a 3 ans maintenant, qu'il voulait que ce soit que des filles qui soient sensibilisées. Pour nous, c'est toujours un petit peu, on aime bien intervenir en mixité, on trouve que c'est important et que tout le monde et qu'en fait, enfin chez FAS, on est convaincu que la lutte contre les discriminations, c'est l'affaire de tous, et que le sexisme, c'est le sujet de tout le monde, c'est pas que le sujet des femmes. Et donc du coup, voilà, on avait échangé avec ce professeur et en fait il m'a mis en lien après avec une de ses collègues du coup qui est, s'appelle Solène Duvin, qui est ma binôme sur ce projet du coup depuis 3 ans et qui est professeure au lycée Emmanuel Mounier en option droit et grands enjeux du monde contemporain. Donc quand je lui ai proposé de mettre en place pour la première fois le procès du sexisme, on savait pas où on allait, j'avais des petites lignes vite fait de là où je voulais aller, mais vraiment c'était bancal, et elle m'a suivie tout de suite en disant qu'en fait procès, ça collait tout à fait avec le thème du droit, et grands enjeux du monde contemporain, malheureusement le sexisme en est encore un, 3 ans après c'est toujours le cas, et je pense que ce sera encore pendant un petit moment malheureusement. Donc elle a tout de suite signé et puis on a lancé la première édition comme ça.
C'est trop, trop, trop chouette. Nous sommes dans Elle était une fois, une émission qui vise à mettre en avant des projets et initiatives menées par des femmes ou des minorités de genre. En fait, tu viens de répondre à ma question. Comment est née l'idée de ce projet ? Tu viens de le raconter. Et donc, c'est porté par toi et Solène Duvin du lycée Emmanuel Mounier, mais aussi et surtout par des élèves. Comment ils se sont emparés du projet qui est déjà à sa 3e édition. Donc, est-ce que Yelon était enthousiaste ou au contraire, est-ce que au début Yelon a un petit peu pris comme une corvée?
Pas comme une corvée du tout. Et ça d'ailleurs c'est commun sur les 3 promos qu'on a eu. Globalement, en fait, la toute première année quand on est intervenu, on avait présenté en fait le procès du sexisme. Ça avait déjà été fait à Paris il y a plus de 3 ans du coup maintenant, 3 ans et demi. Mais c'était à destination d'un public adulte et déjà sensibilisé. Et nous, on a voulu le faire à quelque chose d'adapté aux jeunes. Donc c'est comme ça qu'on leur a présenté. Et en fait, quand j'ai rencontré les jeunes pour la première première fois cette année aussi, je leur présente tout de suite le planning de toutes les interventions qu'on va avoir et de tous les professionnels qu'ils vont pouvoir rencontrer. Okay. Et en fait, la plupart du temps, ils sont assez impressionnés de tout ce qu'on va faire ensemble, de tous les pros qu'ils vont rencontrer et surtout de tous les pros qui sont prêts à donner de leur temps, puisque c'est du mécénat de compétences, c'est du bénévolat pour la grande majorité des professionnels qui interviennent sur ce projet-là. Donc, ils sont toujours plutôt... motivés, enfin même très motivés, un peu stressés quand je leur dis on va monter sur scène, au théâtre, le quai, vous voyez le grand bâtiment à côté de la Maine. Voilà, donc ils sont toujours un petit peu stressés, se dire mais jamais je serai capable, et tous les ans c'est pareil, et tous les ans ils déchirent tout, donc j'ai 100% confiance là-dessus. Mais pas du tout une corvée en tout cas, jamais.
Ben, c'est trop chouette que ça se soit très bien pris et que tous les élèves soient enthousiastes, parce que c'est très important, surtout pour ce genre de sujet. Donc tu as dit qu'il y avait des intervenants, des professionnels qui venaient intervenir. Qu'est-ce qu'ils viennent apporter à ces élèves? Pourquoi vous faites appel à des professionnels?
Alors, on fait appel à eux déjà pour, en fait, premièrement, leur expertise. Mm-hmm. Moi, je suis capable de sensibiliser en classe sur certains sujets. Pour le coup, le sujet du sexisme, pour moi, c'est un sujet sur lequel, si on n'a pas des professionnels de terrain qui accompagnent au quotidien sur ce sujet-là, pour moi, on passe à côté de quelque chose.
Okay.
Donc, du coup, on a des soutiens aussi financiers qui sont importants, notamment la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité et la ville d'Angers, qui sont nos soutiens vraiment financiers sur ce projet. Et après, sur les partenaires qui interviennent en classe, on en a je crois qu'il y en a 7-8, quelque chose comme ça.
Ah oui.
Ouais, c'est vraiment énorme. Et on va, il y a aussi une avocate qui donne de son temps pour venir sensibiliser les jeunes et leur expliquer la réalité de son travail, faire en sorte que leur plaidoirie au final soit le plus crédible possible. On a quelqu'un qui vient parler de l'histoire du sexisme, d'où ça vient, est-ce que ça a toujours existé, est-ce que ça a toujours été le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Mais en gros, voilà. Et puis, on a du coup des associations d'aide aux victimes. On a France Victimes, on a Maison Olympe qui participent au projet. Et puis, le Théâtre du Quai, bien sûr, qui nous accueille. Et une des personnes qui donne le plus de son temps, c'est celui que je suis allée soutenir aux Folies Angevines, du coup, qui s'appelle Tony Dupuis, qui a une petite structure qui s'appelle Pchit Impro. Et en fait, lui, il fait vraiment de la facilitation à la prise de parole par le théâtre d'impro. Et il accompagne les jeunes pour être plus à l'aise sur la prise de parole. C'est vraiment un moment qui est hyper important. Et là, c'est ses interventions, là, en ce moment, parce que dernière ligne droite, c'est sa partie, vraiment. Donc,
Tony Dupuis, qu'on connaît bien sur cette antenne, puisqu'il a aussi une émission. Pchit Impro, probablement, je crois. Faut regarder sur la grille derrière nous, mais je crois que c'est ça, Tony Dupuis. On le connaît bien, et c'est trop trop chouette d'avoir des personnes comme ça qui s'investissent et qui donnent de leur temps. Ça, c'est tellement important. Est-ce que tu peux nous dire les thématiques de cette édition, ou est-ce qu'on garde la surprise?
On peut les dire, puisqu'elles ont déjà été transmises.
Ok.
Les jeunes, alors pour le coup, chaque année c'est pareil, ce sont les jeunes qui choisissent des thématiques qu'ils ont envie de traiter. Donc chaque année c'est très différent.
Ouais.
Et cette année, pour le coup, en fait, ils ont été inspirés notamment de la visite de Maison Olympe. Ils ont été accueillis par Charline Barouki de Maison Olympe. Et en fait, ils ont pu rencontrer des Olympiennes, donc des femmes qui sont accompagnées par Maison Olympe. Et suite aux échanges qu'ils ont eus avec elles, ils ont décidé de partir sur deux sujets qui sont le sujet de l'excision.
Ok.
Et le sujet des violences gynécologiques et obstétricales.
Waouh!
Ouais, deux gros sujets, surtout qu'on est sur des jeunes qui ont entre 16, 17, 18 ans, donc on est quand même sur des jeunes. C'était des sujets qu'ils ont trouvé tellement important de le traiter et qu'on n'en parlait pas assez. Je suis bien d'accord avec eux d'ailleurs. Donc,
voilà. Carrément. Mais je pense qu'on est tous un peu sur le cul de ces sujets qui sont franchement pas faciles à traiter, mais qui sont tellement importants. Je vois Alex dans le public derrière, tout à fait, qui part sur la même longueur d'onde. Voilà. Est-ce que autour du plateau, vous avez une petite question? Pas encore, je reviens vers vous dans quelques instants. Maintenant qu'on a donné envie à tout le monde de venir assister à ce procès du sexisme, est-ce que tu peux nous donner la date et le lieu?
Bah oui, bien sûr. Le lieu, ça change pas. C'est comme tous les ans. On sera au Théâtre du Quai, dans la salle T400. La date, ce sera le vendredi 22 mai après-midi. Sans doute aux alentours de 13h, 13h30. Mm-hmm. Ça, les horaires sont encore à définir, mais le 22 mai après-midi, vous pouvez passer par le site internet du club Face Maine-et-Loire, aller sur notre lien Eventbrite, vous inscrire, c'est hyper facile et c'est ouvert à tous, étudiants, parents d'élèves, associations, entreprises, enfin vraiment peu importe qui quel que soit, enfin qui que ce soit, tant que c'est une personne intéressée par le sujet du sexisme.
Ok.
Sera la bienvenue.
Donc ouais, c'est sur réservation. Est-ce que oui. C'est payant?
C'est totalement gratuit.
Oh.
Totalement gratuit.
C'est bon à savoir.
Ouais.
Alors, bon, moi je suis un peu dégoûtée. Parce que je pourrais pas être là. Vraiment, j'ai trop le seum.
Mais t'étais là l'année dernière.
Mais j'étais là l'année dernière, donc je me console comme ça. Mais du coup, est-ce qu'on peut espérer avoir une captation de la représentation pour celles qui, comme moi, ne pourront pas y assister?
Alors, ça tombe bien, je suis venue qui est dans le public avec la chargée de communication du Club Fast qui est en train de rigoler. Mais oui, en effet, en fait, on aimerait bien cette année pouvoir avoir, on a essayé déjà l'année dernière, au moins avoir quelques images de ce à quoi ça va ressembler. De grandes chances que si le procès dure 2 heures, on n'aura pas 2 heures de vidéo à regarder. Mais je pense qu'un peu comme l'année dernière, on essaiera globalement d'avoir des extraits vidéo. Je parle sous couvert de notre chargée de communication, Pauline.
Qui approuve.
Qui approuve, il semblerait. Donc tout va bien. Et puis, on aimerait bien aussi cette année, et je pense que ça, ce sera un peu ma partie, pouvoir être en mode reporter dans les backstage, pouvoir filmer les jeunes dans les loges, des images qu'on n'a pas du tout sur les précédentes éditions et qui sont hyper chouettes, parce qu'il y a une énergie dans les loges que le public voit pas, et j'aimerais que le public le voit. Donc normalement, on va avoir des petites images.
Des petites images. De quoi me consoler de ne pas pouvoir y assister, mais de toute façon, on essaiera d'envoyer les autres membres de l'équipe, on se cale avec vos agendas.
Tu les auras en avant-première, promis.
Trop bien. Je suis tellement dégoûtée de ne pas pouvoir être là. Je repose la question autour du plateau. Est-ce que vous avez une petite question, Léonie?
Oui, bah, j'avais une question avant et tu y as répondu vraiment. J'ai noté la question, tu y as répondu 3 secondes après. J'ai fait, bon, bah,
on est connectés.
Et oui, je me demandais, est-ce que tu as, par rapport aux 2 précédentes éditions, tu peux avoir des news d'élèves qui se sont engagés après ou qui ont pu continuer des projets d'eux-mêmes?
Complètement. Je sais par exemple que sur l'édition de l'année dernière, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait, après avoir visité Maison Olympe, qui ont fait un petit peu de bénévolat chez Maison Olympe. Il y en a aussi beaucoup qui sont partis en droit, qui avaient plus ou moins déjà ce projet-là et qui, en menant le procès du sexisme, en rencontrant l'avocate, donc Sophie Huchon qui nous accompagne sur le projet, ont eu envie encore plus de partir vers ces filières-là. Et on en a d'ailleurs une qui faisait partie de l'édition de l'année dernière qui s'est inscrite pour venir voir l'édition de cette année. Donc j'ai trop hâte de la revoir, de reprendre des petites news. Donc oui, on en a certains qu'on suit, on a encore des petites nouvelles. Je les ai sur Insta. Donc,
C'est trop bien, c'est trop chouette de voir que le projet comme ça, il continue et qu'il il peut semer une petite graine dans le cerveau de ces élèves-là.
Ah mais j'adore, on est des semeuses de graines, je pense qu'on l'avait déjà dit sur cette émission, mais carrément. Et puis, il y a quelque chose qu'un des jeunes avait dit l'année dernière que j'ai trouvé très vrai, c'est qu'en fait, ils auront beau se séparer et plus forcément se revoir après la terminale, bah, ce moment-là, ils l'ont quand même partagé ensemble. Et c'est pas tout le monde qui peut monter sur la scène d'un théâtre, mener un projet aussi engagé et militant, donc ils en sont très fiers. Ouais.
Mais c'est un tellement beau projet. Clairement. De nouveau, nous sommes dans Elle était une fois, l'émission féministe qui n'a pas peur de dire la vérité. Le procès du sexisme est une initiative très importante sur notre territoire, encore plus quand on sait qu'elle est portée par des jeunes. Comment se placent ces jeunes justement par rapport à ces sujets de féminisme et du sexisme? Est-ce que tu les sens réceptifs?
Ouais, carrément. Je vois toujours une différence entre souvent quand je viens les voir la première fois et quand il y a donc la première intervention qui est de Bérangère Soyer qui vient leur parler de l'histoire du sexisme. J'ai l'impression quand je les revois la fois d'après qu'on leur a donné des lunettes parce qu'elle leur parle par exemple de la pub sur les abribus, pub de shampoing où on voit une meuf à poil, bon classique. Et en fait quand ils reviennent la fois d'après ils disent mais en fait le sexisme il y en a partout. On a vraiment l'impression de leur avoir juste filé des lunettes. Allez, les lunettes au sexisme et ils en voient partout. Donc moi ce que j'adore c'est de voir qu'au démarrage ils ont tous à peu près une idée de ce que c'est, mais à la fin du projet ça devient des experts qui sont eux-mêmes capables de sensibiliser d'autres jeunes et même d'autres adultes. C'est ce qui se passe le jour J du procès du sexisme. Sont eux-mêmes en position de sensibilisation qu'ils ont reçu eux, donc ça c'est trop bien, ils s'approprient vraiment le sujet.
C'est incroyable. Je te pose la question en prison parce qu'avec la montée des courants masculinistes notamment auprès des jeunes, il est d'autant plus important de les sensibiliser à toutes ces questions. Est-ce que selon toi c'est un peu l'essence du procès du sexisme? Est-ce que c'est en partie son objectif de sensibiliser ces jeunes?
Bah carrément, vraiment. Et puis on s'appuie tous les ans, Solène du coup leur fait voir, étudier le rapport du Haut Conseil à l'égalité, donc avec des chiffres qui sont de plus en plus terrifiants d'année en année, notamment sur la montée du masculinisme sur les réseaux. Et on en fait un débat en classe, on en parle. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez déjà vu ça passer sur TikTok? Parce que c'est beaucoup sur ce réseau social-là, sur TikTok, sur X, etc. Sur, on sait, ce genre de réseaux qui sont qui comme tous, mais parfois bien plus toxiques. Et en fait, on en fait vraiment un sujet. C'est, on met ces mots-là sur la table. On dit, mais est-ce que toi, t'as déjà vu une vidéo d'un mec qui est en train de dire que les meufs, de toute façon, elles sont, bah, en fait, qui prônent ce qu'on parlait au tout début de l'émission, finalement. On en fait un sujet. On permet vraiment aux jeunes de s'exprimer là-dessus. Il n'y a pas de tabou sur ces sujets-là. Moi, je suis convaincue que plus on crée des tabous, plus on cristallise les choses. Donc on en parle. Et c'est l'idéal, en fait, c'est que tous ces jeunes-là, après, en fait, moi, j'ai l'impression de les contaminer un peu du militantisme, et qu'après, ça va les contaminer un peu partout. Et bon, je me dis qu'avec un peu de chance, ils seront tous féministes, tous ceux qui vont croiser leur route après, donc.
On ne peut que le souhaiter. C'est vraiment, si ça arrive, c'est, on a, le travail, il est fait.
C'est clair.
Drop the mic. Merci beaucoup, Marie, pour cet échange. C'était vraiment trop, trop cool de te recevoir sur ce plateau. D'autant que tu viens pour un projet que j'aime énormément, à titre personnel. J'ai tellement le seum, je le redis, de pas pouvoir être là, mais c'est pas grave, j'aurai des images et puis les filles me raconteront. On va à présent marquer une nouvelle pause musicale, puis nous reviendrons dans quelques instants avec une histoire de destinée, de pouvoir et de guerre. Puis nous discuterons d'un vaste sujet, pourquoi vivre des expériences romantiques est-il tant valorisé ? Mais avant tout ça, je vous propose d'écouter Lush Life de Zara Larsson. Welcome back 2015. Vous n'êtes clairement pas passé à côté du rebranding de la chanteuse qui a changé toute son esthétique pour coller au montage vidéo cheap et vintage de l'époque avec des dauphins sur fond tropical à paillettes colorées. C'est exactement le mood de sa chanson. Alors sortez vos lunettes de soleil et préparez-vous à danser et à vous ambiancer. On se retrouve dans un instant sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonne écoute. As if it was the last, live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer, doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer, gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush, now I might have wanna say too much, but that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last, live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer, doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer, gonna spend it like no other. It was a crush, I kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff, I'm just better off without them cuffs. Yeah, the sun won't set on us. Avec nous dans Elle était une fois sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr, et je suis toujours avec mes copines Emeline, Léonie, Soraya et Marie. Ça va toujours, Marie, maintenant que l'interview est passée?
Ouais, carrément. Un peu moins stressée, ça y est.
Ah, un petit peu. T'étais un petit peu stressée?
Bon, un petit peu, mais ça va.
Un petit peu. Mais ça va maintenant. Trop bien. Nous partons à présent pour les terres anciennes de Chine, où prédestination et survie se mêlent pour offrir un récit puissant et éblouissant. C'est tout de suite avec toi, Léonie.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique littéraire. Aujourd'hui, je vous fais découvrir une pépite que je suis hyper heureuse d'avoir enfin lue. Je vais vous présenter « Celle qui devint le soleil » de Shaili Parker Chan, publié en 2021 sous le titre original de « She Who Became the Sun » et traduit par la maison d'édition Brajlon. L'autrice est née en Nouvelle-Zélande d'une mère sino-malaisienne et a exercé plusieurs métiers, comme celui par exemple de conseiller l'Indonésie quant aux questions de développement international pour l'égalité des sexes et les droits LGBTQ+.
Oh waouh.
Et ouais, rien que ça. Yel s'est tournée vers l'écriture pour mettre en avant une meilleure représentation queer et s'éloigner des stéréotypes quant aux personnages asiatiques dans la fiction, et ça c'est pour notre plus grand plaisir. L'histoire commence dans un village pauvre de la campagne chinoise où un devin prédit que le fils d'une famille de paysans aura un grand destin et que la fille sera condamnée à n'être rien. Alors que son frère et son père meurent sous ses yeux des attaques d'un groupe de bandits, la jeune fille décide de refuser la prophétie et prend l'identité de son frère, Zhu Changba, dans le but de prendre également son destin. Dans cette fantaisie historique, Shaili Parker Chan nous plonge dans la Chine du XIVe siècle et réinvente l'ascension au pouvoir de Zhu Yongshang, le fondateur de la dynastie Ming, en se demandant une chose. Et si cet empereur n'était pas en réalité une femme ? Le récit évoque magnifiquement bien la question du genre et de la non-binarité, tant avec le personnage de Zhu Changba qu'avec celui d'Ouyang, un général eunuque forcé de diriger les armées de ses ennemis et hanté par son désir de vengeance. On alterne entre les deux points de vue comme dans un zapping, et même quand on voudrait faire un break de toute la tension, l'histoire nous rattrape et nous emmène avec elle dans une réflexion profonde sur la force du destin et de ce qu'il est possible de faire pour le contrôler. Dans ce roman, les empires tombent, et c'est le qu'on prenait pour de simples pigeons prennent leur envol. Ce qui m'a beaucoup touchée dans ma lecture, c'est la beauté et la justesse avec lesquelles sont traitées les identités LGBTQIA+. L'autrice étant queer et genderqueer, on retrouve dans le récit une approche très bienveillante et en même temps très honnête de ses questionnements, et je dois avouer que quand on ajoute en intrigue secondaire une romance lesbienne au milieu de tout ça, je ne peux qu'être convaincue. Si comme moi, vous souhaitez essayer de décentrer vos lectures d'un prisme européen et nord-américain et que vous voulez des romans de fantasy historique queer, badass et qui n'ont pas peur d'avoir des personnages ambitieux et à l'éthique contestable, je ne peux que vous conseiller la duologie « Celle qui devint le soleil » de Shaili Parker Chan. Quant à moi, je retourne me plonger dans ma bibliothèque à la recherche de nouvelles pépites féministes.
Merci beaucoup Léonie pour cette nouvelle découverte. Ça a l'air d'être une lecture avec un sacré lore à appréhender, ouais. Mais ça a l'air franchement très cool. L'heure est venue à présent de discuter d'un sujet qui questionne beaucoup, la pression des expériences romantiques et ce que ça dit sur la société. C'est tout de suite dans Elle était une fois. Ma question est hyper mal formulée, on va pas se mentir, et à vrai dire c'est même pas une question, c'est surtout une constatation, une réflexion sur mon expérience et celle dont j'ai été témoin. Pourquoi l'amour, ou du moins les expériences romantiques, sont-elles si importantes ? Bon, quand je parle d'expériences romantiques, j'entends surtout en fait tout ce qui est date, flirt, couple, relations amoureuses ou sexuelles, enfin franchement on englobe tout ce genre de choses. Pourquoi on en fait un but à atteindre et pourquoi c'est très souvent associé aux femmes ? Ma première question autour du plateau, c'est est-ce que vous avez la sensation, comme moi, que l'amour ou les expériences romantiques sont un but à atteindre et qu'il faut absolument en vivre ? Emeline.
Alors aujourd'hui, je trouve pas forcément que c'est un but à atteindre. Genre, je pense que c'est peut-être quelque chose à vivre, mais pas forcément un but, genre quelque chose de final.
Ok.
Mais je pense que le fait que ce soit un but, c'est beaucoup une vision qui nous a été transmise à travers les films, beaucoup. Donc ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu en tête. Ouais, on doit absolument finir en couple et être amoureux et tout. Alors que non, en vrai. C'est bien célibat aussi.
Soyons célibataires. Soraya, je te vois hocher la tête. Est-ce que tu veux compléter ?
Je suis totalement d'accord. Moi, je vois pas ça comme un but du tout. Mais c'est vrai que quand on a grandi avec nos parents qui nous disent « Alors, t'es un amoureux ?» ou « T'es un amoureux ?» Généralement, c'était que des hommes, de toute façon, quand t'es une femme. Mais on a grandi avec des représentations, avec oh, la princesse qui trouve son prince charmant. Tu dois vivre ça, ma fille, parce que voilà, c'est bien, c'est fun. bon, bah actuellement, bah non, moi, je suis pas pour ce genre de discours, ce truc de oh, trouve quelqu'un, forcément.
Ok. Léonie, je te voyais réagir aussi. Est-ce que tu souhaites compléter, donner ton point de vue ?
Ouais, bah de fou, il y a vachement cette pression de manière sociétale et c'est quelque chose qu'on voit par exemple. Un mariage sera l'événement le plus célébré de ta vie. Tu ramènes toute ta famille, tu ramènes tous tes amis, tu fais une super soirée. Mais genre, est-ce qu'on peut pas faire ça pour genre un diplôme, pour genre un truc que j'ai réussi de moi, pour je sais pas un événement de... Pourquoi on doit célébrer le fait que j'ai réussi à me mettre en couple, genre est-ce qu'on peut pas célébrer un diplôme que j'ai eu, je sais pas, tu vois, c'est genre d'événement là où on met vraiment en avant le couple.
Et bah à la fin de ton master on célébrera ça.
Je t'en suis grosse.
Je prends note, je suis un peu événementielle aussi. Ça marche, je suis multicasquette. Personnellement, dès mon plus jeune âge, j'avais l'impression qu'il fallait que j'aie une expérience romantique, que je pouvais pas exister sans ça. Je me souviens qu'à chaque nouvelle rentrée, je regardais les garçons de ma classe, toujours les garçons, en me demandant lequel j'allais choisir. C'est un peu une dinguerie d'ailleurs. Ça aboutissait ou pas, généralement pas d'ailleurs, mais j'avais choisi et cette personne allait devenir mon crush pour l'année. Est-ce que vous avez une expérience similaire ou est-ce que je suis la seule folle qui faisait ça, Marie?
Alors je pense pas que tu sois la seule folle qui faisait ça. Moi perso c'est pareil, c'était plus en étant ado, j'ai l'impression, ou jeune adulte.
Ouais.
Pas que maintenant je sois une vieille adulte, on s'entend, je suis pas si vieille, mais voilà, globalement je vais avoir 30 ans cette année, mais bon, on n'en parle pas. Mais pareil, quand j'étais ado, je pense que j'idéalisais grave le coup de foudre aussi. Moi, c'était beaucoup ça, mais parce que j'ai deux parents qui littéralement ont eu un coup de foudre l'un pour l'autre, qui sont encore ensemble après 30 ans, enfin plus de 30 ans de couple, etc. C'est trop beau. Mais du coup, pour moi, c'était un peu un graal, ce truc-là, de je dois tomber amoureuse au premier regard. Spoiler alerte, l'amour, ça se construit, et les papillons dans le ventre, c'est pas si agréable, c'est du stress, surtout. j'ai expérimenté ça sur les premiers temps, les premières relations que j'ai eues en étant ado. Je me disais, mais en fait, les débuts, c'est pas si cool, c'est stressant. Tu te dis, je réponds vite, pas vite, je fais quoi? Il m'envoie un message, j'attends un peu en faisant genre, non, je suis une fille un peu inaccessible. Enfin, à se poser trop de questions. Et en fait, pour moi, le couple, ça doit être la cerise sur le gâteau de ta life et non pas tout le gâteau, quoi. Vraiment.
J'adore, t'es tellement iconique. Je crois que, pour revenir à ce que je racontais juste avant, je crois que j'avais un peu besoin de me sentir aimée, ou du moins de sentir que je pouvais plaire. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Léonie, je te vois hocher la tête. Je t'écoute.
Ouais, bah de fou, il y a un truc où du coup on projette sa valeur sur le fait de plaire à d'autres personnes. Et du coup, par conséquent, quand on ne se met pas en couple, il y a un truc qui se répercute sur toi en disant du coup j'ai pas de valeur puisque personne veut se mettre en couple avec moi, donc du coup je peux plaire à personne. Et du coup ça peut être hyper dur, surtout en étant jeune, de grandir, de voir tout le monde se mettre en couple, et pour celles qui ne peuvent pas, qui ne se mettent pas en couple, ou voilà, peu importe, se dire mais du coup est-ce que je vaux quelque chose dans ce monde où on base la valeur et le fait d'être désiré, est-ce que du coup si j'ai jamais été en couple, genre je vaux un truc? Et c'est hyper violent, genre, de ressentir ça.
Grave. Soraya et Emeline, est-ce que vous partagez un petit peu ce ressenti-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Léonie?
Bah, en vrai, oui, je suis d'accord. Il y a vraiment ce truc de... si, genre, je suis célibataire sans 100 personnes, j'ai moins de valeur que les autres. Genre, j'ai pas de... Je sais pas, genre, il y a un peu ce truc aussi où, par exemple, entre potes et tout, on se raconte, nos histoires amoureuses. Il y a un peu ce truc, ah oui, moi, j'ai rien à raconter de ma vie amoureuse, en fait. Je pense qu'il peut y avoir aussi un peu ce truc-là.
Soraya, tu veux compléter?
Ouais, bah j'ai ressenti ça surtout au lycée quand t'as pas de relation amoureuse, juste parfois t'as des crushs, tout ça. Mais après, quand tu te mets en couple, t'es en mode ah ouais, en fait c'est. Voilà, j'ai sacralisé le truc alors qu'en vrai, voilà quoi.
Vous me faites tellement rire! Ah, vous me faites trop rire!
Astrid, elle va pas tenir l'émission. Ah,
vraiment. Donc là, on est entre meufs, on partage notre ressenti, notre vécu. Mais est-ce que vous pensez que les mecs, ils ressentent ça aussi? Est-ce que vous pensez qu'ils se posent ce genre de questions, Marie?
Non, mais moi, je pense que globalement, les mecs se posent mille fois moins de questions que nous.
Ah
parce
ouais
que je pense que j'arriverai à faire une généralité là-dessus, pour le coup.
Okay.
Je pense qu'il y a forcément des mecs qui se questionnent là-dessus, mais j'ai l'impression que, notamment la notion de couple un peu stable, c'est quelque chose qui est moins... J'ai l'impression qu'il y a moins une pression mise sur eux par rapport à ça. C'est plus OK d'avoir plein de petites relations ou pas trop... Enfin, pas un truc stable avant longtemps. Je sais pas, j'ai... Après, peut-être que j'ai pas eu de... En tout cas, j'ai pas eu de discours contraire de la part d'amis mecs. Mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu une pression pour se mettre en couple ou pour plaire au sens large. Peut-être en étant ado, mais pas en jeune adulte, je pense.
C'est vraiment plus une pression qui est attribuée aux femmes qu'on leur force à intégrer. Léonie, tu...
Bah, et puis il y a quelque chose aussi dans l'éducation que la société renvoie aux jeunes femmes et aux jeunes hommes.
Ouais.
C'est ok si un garçon, un jeune homme a plusieurs histoires avant de se poser, ou en tout cas des conquêtes entre gros guillemets, mais pour une fille il y a un truc de pureté. Faut des relations longues, faut que ce soit stable, faut trouver la bonne personne, genre faut pas trop entre gros guillemets batifoler, faut pas voilà. Et du coup il y a un truc aussi dans la manière dont on éduque les jeunes là-dessus, je trouve, de se forcer à trouver la bonne personne, et faut rester longtemps parce que sinon bah je suis pas pure quoi.
Ouais,
c'est fou, enfin c'est fou de penser ça, tu vois.
Je vois. Emeline, Soraya, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous souhaitez réagir? Soraya.
Bah, je sais que moi j'ai grandi justement avec ce truc de oh, faut être pur, faut te réserver pour la première personne, la première personne avec qui tu seras en couple, avec qui ça sera stable, tout ça. Alors que les hommes, bah, j'ai l'impression ils peuvent aller batifoler, les parents ils vont en rigoler, ils vont être là en mode ah ouais, mon fils il gère de fou les meufs et tout. Alors que genre, quand t'es une fille et que bah, genre t'as plusieurs prétendants,
ouais,
et bah clairement tu seras un peu une prostituée à leurs yeux, quoi.
Ouais, tu te prends une sacrée répute.
Clairement.
Clairement. Il y a une phrase sur laquelle je serais intéressée d'avoir votre avis. Je cite: pour que les autres nous aiment, il faut s'aimer soi-même. Qu'est-ce que vous en pensez, Léonie? Cette phrase t'est dédiée parce que je sais que c'est une phrase qui t'agace et tu m'en parles souvent. Donc ce moment, il est pour toi. Nous t'écoutons.
Je t'en parle souvent. On va parler une fois.
Non,
on a eu un débat.
Non.
Une fois. Au moins deux.
Il était particulièrement marquant, visiblement.
Oui, mais parce qu'on en avait beaucoup parlé. Mais parce que moi, je trouve que cette phrase, elle est pas. Enfin. En fait, je trouve qu'elle met beaucoup la faute sur la personne.
Grave.
Et du coup, elle est hyper dans le jugement de... bah, tu vois, du coup, c'est ta faute si personne veut de toi. Enfin, du coup, c'est hyper violent. Et en même temps, il y a une part de vérité. C'est important de travailler sur soi, et c'est important de travailler cette confiance en soi et d'apprendre à avoir confiance en toi sans que quelqu'un... Enfin, sans d'avoir le jugement de quelqu'un. Mais je trouve que c'est hyper... c'est dans le jugement de dire, mais tu vois, du coup, puisque tu ne t'aimes pas, tu ne mérites personne.
Ce qui est horrible.
C'est horrible à dire.
Et toi, Marie, qu'est-ce que tu penses de cette phrase?
Bah, je suis carrément d'accord avec Léonie pour le coup, parce qu'en fait, je pense que. Enfin, moi, je suis convaincue que s'aimer à 100%, c'est le travail d'une vie. Et s'il faut attendre d'avoir 90 ans pour rencontrer quelqu'un, parce que ça y est, c'est bon, je suis sûre de moi, je me kiffe, bah, en fait, on perd vachement de temps et on passe à côté de belles choses et de belles rencontres. Je pense que globalement, c'est important d'avoir de l'amour propre aussi pour savoir mettre des limites et puis savoir ce qu'on veut. Et pour moi, ça, c'est hyper important de savoir qui on est, surtout avant de se mettre en couple avec quelqu'un, pour pas dire oui et à tout et à n'importe quoi, pour pouvoir encore une fois exprimer ses limites. Mais je pense que s'aimer 100% soi-même, je suis même pas sûre que ce soit atteignable tous les jours de sa vie. Enfin, moi, il y a des jours où je me kiffe et il y a des jours où je peux pas me blairer. Et je suis convaincue que ça me durera jusqu'à la fin de ma vie, et c'est ok. Et c'est pas pour ça que ça vient mettre une espèce d'écart bizarre dans mon couple, où j'attends de l'autre qui m'aime pour que je m'aime. Non, c'est pas ça nécessairement. C'est là où on va trouver, je pense, les leviers pour s'aimer soi-même. C'est là où c'est important, même si c'est un travail sur le long terme. Donc je suis carrément d'accord. Je trouve que c'est très culpabilisant, ce genre de phrase. J'y trouve personne, parce que déjà, aime-toi toi-même, apprends à vivre seul. Mais en fait, c'est ok de pas aimer passer ses soirées solo. Enfin, moi, je trouve ça carrément hyper culpabilisant. Et je suis vraiment pas trop d'accord avec cette phrase, globalement.
Et on en revient donc à la phrase de Emeline au tout début: soyons célibataires. Emeline, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce qui vient d'être dit?
Ouais, en fait, je trouve que cette phrase, elle a peut-être un bon fond, mais en fait, je pense que c'est un peu le souci des phrases qui se veulent un peu universelles, c'est que ça simplifie beaucoup la chose, en fait. Et oui, c'est vrai qu'au final, genre, s'aimer soi-même, c'est bien, genre, il faut s'aimer, etc., faut accepter nos défauts, etc., mais deux personnes peuvent très bien s'aimer, ou, enfin, voilà, et ne pas forcément bien matcher.
Ouais.
Même, enfin, voilà.
Ouais, ok, merci. Soraya, est-ce que tu veux compléter donner ton avis pour finir ce débat?
Ben moi, je rejoins tout le monde. Toutes vos idées sont incroyables. C'est voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Vraiment, voilà. Vous avez tout dit au final.
Drop the mic. Bah merci beaucoup pour cet échange. En vrai, c'était grave intéressant de discuter avec vous, mais ça, comme d'habitude. Auditoristes, si vous avez des réactions ou si vous souhaitez en discuter avec nous, envoyez-nous un message sur notre Instagram euh-uf-radio-g. vraiment, je le dis à chaque fois, mais à chaque fois, vous envoyez pas de message et ça me rend triste. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de discuter avec vous, genre, je sais pas, envoyez-nous un message s'il vous plaît. Non, en vrai, ce serait trop trop cool de pouvoir échanger avec vous et d'avoir votre avis à vous aussi. Voilà, bah merci beaucoup à l'équipe d'aujourd'hui. Merci Emeline, Léonie, Soraya, merci Marie. Et bien sûr, merci à vous aussi, auditoristes, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans 2 semaines avec de nouveaux sujets. C'était Elle était une fois, votre émission féministe du 101.5 FM. Je suis toujours tellement heureuse de pouvoir discuter avec vous pendant 1 heure. C'est mon highlight de la semaine. On vous a parlé durant cette heure de l'horrible réseau l'Académie du Viol, puis on vous a donné les actus de nos anciennes invitées pour se changer les idées et parce qu'elles méritent de continuer à être mises en avant. Nous avons découvert l'histoire de Yaoi Kusama, une artiste au petit pois, ainsi que le roman « Celle qui devient le soleil » de l'autrice chez les Parker Chan. Et nous avons discuté d'expériences romantiques, de pression de la société, de confiance en soi, blablabla. On a discuté de tout ça et c'était trop bien. Nous avons également eu le plaisir de recevoir Marie Plossy qui représentait le procès du sexisme, un magnifique projet lycéen. Merci encore d'avoir accepté l'invitation, Marie. Ça va, t'as passé un bon moment?
Oh bah, toujours, de toute façon, fan numéro 1 autoproclamé du podcast, hein, vraiment, et des vlogs d'ailleurs.
Et des vlogs.
Allez, oui, à fond sur la chaîne YouTube.
Exactement, c'est Radio G Angers. Voilà, vous pouvez suivre nos actus. On vous souhaite une très belle journée sur Radio G. Retrouvez Entre les pages ce soir à 17h. Et si vous souhaitez découvrir de nouvelles voix féminines, rendez-vous jeudi à 20h pour Elle chante la francophonie. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines à 13h et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram EEUF-RadioG. Allez nous suivre, franchement, on partage plein de trucs, on est trop fun. Et pour bien finir cette émission, on termine avec une dernière musique présentée cette fois par Emeline.
Alors pour finir en beauté, je vous propose de vous détendre. Si vous êtes chez vous, prenez un petit café, un chocolat chaud ou toute autre boisson de votre choix. Dans tous les cas, installez-vous confortablement et je vous laisse avec Terracotta Rose de Ashley On. On se retrouve dans 2 semaines sur radio-g.fr ou sur le 101.5 FM. À bientôt.
Bisous.
Bisous. Terracotta walls, they know all my thoughts. They've seen all my faces, everything that I was taught. Never liked the dark, I kept on every lie. I thought that I'd be safer from the display inside my mind. We talk from day to night. The kitchen knew no space or time. Just hours passing by, bye, bye, bye. Come sit at the table. Tell me how's your day. Let me take your coat. You can't overstay. So let me help you put down. Everything has changed. Some people don't come around no more, but memories remain.
Radio G.
Just wanna tell you.
101.5 FM.
Yeah, I know ain't nothing new under the sun and shit, but ain't nobody dealing.